Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette grande vadrouille radiophonique qui nous emmènera jusqu'à 14h. Allons voir comment va la vie ailleurs. Et la vie, elle est dure au Venezuela. Rencontre avec ces jeunes qui n'ont pas quitté le pays, qui résistent à la répression mais aussi à la faim. Car il en est là, le Venezuela, il a deux présidents, mais plus grand chose à manger et une monnaie qui ne vaut plus rien. Grand reportage dès le début de ces carnets. Puis nous irons en Espagne, qui se prépare à suivre un procès historique, celui de 12 leaders indépendantistes, jugés pour rébellion et sédition, 16 mois après le référendum en Catalogne. Le procès commence mardi et toute l'Espagne en parle. Et puis jeudi, ce sera le 14 février, et oui, la Saint-Valentin. Et si vous avez l'intention d'acheter des roses, vous vous direz qu'elles ont peut-être suivi le circuit qu'on va faire ensemble, depuis les roseraies du Kenya jusque chez votre fleuriste en passant par le plus grand marché de fleurs du monde en banlieue d'Amsterdam. On observera aussi quelques traditions de la Saint-Valentin comme Giri Choco au Japon, cette quasi-obligation qu'ont les femmes d'offrir des chocolats à leurs collègues masculins.
Le 14 février, toutes les employées étaient tenues d'offrir des chocolats au patron. Des chocolats de marque en plus. Et si l'épouse du patron, qui vérifiait systématiquement, jugeait que les chocolats offerts étaient bas de gamme, eh bien les employées fautives étaient sanctionnées.
Bonne nouvelle, les Japonaises commencent à se rebeller. Et puis en Thaïlande, on verra comment faire renaître l'amour. Tout un programme. Nicolas Caro nous apportera un roman coup de poing, celui d'une jeune chinoise de New York. Et Joseph Chovanec nous entraînera en autistan, réflexion autour de ce que représente un compound, ces résidences d'expats. Les carnets du monde sont ouverts, première destination, Caracas. Le Venezuela s'enfonce dans la pire crise de son histoire récente, crise politique avec deux présidents dans le pays, Nicolas Maduro, le successeur de Chavez, et Juan Guaido, le jeune président de l'Assemblée nationale qui le 23 janvier s'est proclamé président par intérim en évoquant la Constitution. Et puis, crise économique bien sûr, avec une inflation qui devrait atteindre cette année 10 millions pour cent, chiffre totalement absurde et irrationnel, mais qui donne une idée du quotidien impossible pour les Vénézuéliens. Pascal Ménot est avec nous dans les carnets. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous venez de passer une dizaine de jours au Venezuela et vous allez nous parler de ce drame humanitaire que subit la population. Mais on écoute d'abord votre reportage sur la jeunesse de ce pays. Plus de 2 millions de Vénézuéliens ont déjà quitté le pays, mais ceux-là sont ceux qui ne sont pas partis. Reportage.
Nous sommes à El Junquito, sur les hauteurs de Caracas. Le soir de l'autoproclamation de Juan Guaido il y a deux semaines, c'est dans ces barrios, les quartiers les plus pauvres de la ville, que la plupart des 35 manifestants ont été tués. Ce soir-là, Franklin Figuera, un jeune étudiant, venait de sortir de chez sa petite amie. Des émeutes avaient éclaté dans la rue, les manifestants dressaient des barricades sur la route. Lui avait pressé le pas pour rentrer plus vite, retrouver sa famille. Il est mort, touché par une rafale des forces spéciales, d'après ses proches. Pour nous raconter ce qu'il s'est passé, ses amis nous invitent à l'endroit même où Franklin est tombé ce soir-là. En arrivant devant une épicerie au rideau de fer baissé, les jeunes garçons se frottent les yeux, puis s'écartent et forment un demi-cercle en pointant du doigt le trottoir en ciment.
C'est ici qu'il a été abattu. Pour rentrer chez lui, il a dû traverser les émeutes. La police a commencé à tirer. Les gens se sont cachés, mais trois personnes ont préféré courir pour échapper aux balles. Et l'une d'entre elles, c'était Franklin.
Les policiers et ces jeunes s'en méfient depuis quelque temps déjà. Ils ont l'impression de risquer leur vie chaque fois qu'ils descendent manifester en ville.
Il y a un vrai problème. D'après la loi, les policiers ne devraient pas attaquer le peuple avec des armes à feu dans aucune manifestation. Ils ne devraient utiliser que des grenades lacrymogènes et des flashballs. Mais ces gens-là font ce qu'ils veulent. En 2017, ils ont tué près de 300 personnes pendant les manifestations. Les gens qui sont partis pensent que tout ira mieux avec Guaido, mais ça ne va pas changer en un jour, ça prendra au minimum 5 ans. Hier, on parlait entre nous du respect vis-à-vis des forces de l'ordre. Avant, quand t'insultais un policier, on te mettait une gifle en disant de les respecter, mais plus maintenant. Pour que ça revienne, il faut qu'ils virent tous ces ripoux, qu'ils embauchent des gens intègres. C'est ça qui va changer les choses. Mais ça prendra des années, des années.
Le frère de Franklin s'avance pour prendre la parole. Casquette de baseball enfoncée sur la tête pour masquer ses larmes. Il soutient Juan Guaido, mais ne croit pas en l'homme providentiel.
Je pense que personne au Venezuela ne soutient seulement un parti, parce qu'à chaque fois, quelqu'un arrive et nous dit qu'il va faire des choses pour nous. Et au final, il ne fait rien, on ne peut compter que sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on descend dans la rue pour manifester.
La force de la rue, c'est à ça que croient les jeunes vénézuéliens aujourd'hui. Dans les manifestations de ces derniers jours, beaucoup d'adolescents, beaucoup de groupes d'étudiants qui défilent en tenant un drapeau dans une main et un smartphone dans l'autre. Car en plus de s'informer via les réseaux sociaux, ils gardent un contact permanent avec leurs familles parties à l'étranger pour travailler et leur envoyer de l'argent, comme ces trois garçons qui vivent en colocation et qui préfèrent ne pas donner leur prénom.
C'est primordial pour nous les jeunes de venir manifester de manière pacifique, qui plus est. Parce qu'on veut que ça change, on veut que nos familles reviennent. La majorité de nos proches vivent au Panama, aux États-Unis, en Espagne. Nous, par exemple, on est les trois seuls de notre bande de potes à être restés vivre ici.
Dans un pays où un tiers des habitants a moins de 14 ans, la jeunesse est un enjeu primordial. Il est donc logique qu'elle soit au cœur de la stratégie de Juan Guaido. La prochaine journée de manifestation, c'est mardi, après-demain, le 12 février. Et le 12 février au Venezuela, c'est la journée de la jeunesse. Caracas, Pascal Meno, Europe 1.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1. Pascal, depuis plus d'un an régulièrement, Europe 1 va au Venezuela pour évoquer cette crise. Et à chaque fois, un aspect devient de plus en plus dur. C'est la faim, F-A-I-M.
Oui, tous les Vénézuéliens vous en parlent, hein, de cette faim. Alors, ils ne le disent pas exactement comme ça qu'ils ont faim, par pudeur. Mais ils évoquent tous, au détour d'une phrase, un proche qui a perdu du poids. Et on estime que ces trois dernières années, les Vénézuéliens ont perdu 11 kilos en moyenne par habitant. Alors, les images qu'on a pu voir de rayons vides, sans aucun aliment à vendre, bien ces images existent toujours, bien sûr, même si depuis quelques semaines, des magasins se remplissent un peu. On peut trouver de la viande, il y a des légumes sur les marchés. Mais les prix restent prohibitifs. Un kilo de pommes de terre, rendez-vous compte, c'est la moitié du salaire minimum mensuel. Oh, ouais. On va l'entendre pour ces Vénézuéliens. La nourriture reste donc la préoccupation numéro un.
C'est vraiment difficile. On peut parfois passer une journée entière à attendre et le soir, on repart sans rien. La semaine dernière, je suis venue presque tous les jours et je n'ai rien eu. Et quand il y a quelque chose, c'est beaucoup trop cher. Alors parfois, je saute un repas. Et encore, moi je travaille, mais je connais des gens qui mangent à peine une fois par jour.
Moi, je suis étudiante et j'habite encore chez mes parents. Je m'en sors parce que j'arrive à me contenter de peu. Si j'ai un plat de pâtes, ça me va.
Pour mon petit-fils, c'est pas évident de trouver de la nourriture adaptée pour qu'il grandisse bien. Il a de la chance, ses parents gagnent un peu d'argent, alors ils s'en sortent. Mais c'est difficile.
Voilà, grave pénurie de nourriture et de médicaments d'ailleurs. Et cette faim qui frappe tout le monde, elle a des conséquences, Pascal.
Oui, notamment sur les enfants, on l'imagine. Hein. Les chiffres sont éloquents. La mortalité infantile a augmenté de 25% en 2 ans seulement. J'ai rencontré Maritz Landeata Jiriménez. Elle est médecin et dirige la fondation Bengoa qui analyse la malnutrition au Venezuela.
On estime que 40% des enfants abandonnent l'école à cause de la malnutrition. Certaines familles passent leur journée entière à errer en ville ou dans les villages à la recherche de nourriture. Ces enfants grandissent alors dans la rue et les jeunes filles tombent rapidement enceintes. 25% des grossesses au Venezuela sont des adolescentes qui ont entre 12 et 18 ans et leurs enfants rencontrent eux aussi des problèmes de malnutrition. Car la nourriture pour bébé est trop chère, alors ces jeunes mères allaitent, mais comme elles ne mangent pas assez, leur bébé est sous-alimenté. Et cela affecte leur développement physique et mental. Ici, des enfants meurent de soif, car à l'hôpital, on n'a pas assez de médicaments pour soigner une simple diarrhée.
Voilà, témoignage édifiant de cette médecin pédiatre que vous avez rencontré à Caracas, Pascal. On a bien compris que les Vénézuéliens ont besoin de vivre de première nécessité. Et pourtant, ces derniers jours, les forces armées fidèles à Maduro ont fermé la frontière, notamment ce pont qui relie le pays à la Colombie et derrière lequel l'aide humanitaire est prête, elle est là.
Oui, elle a été annoncée par Guaido la semaine dernière pendant la manifestation géante. Des centres de collecte doivent être installés dans les pays voisins, au Brésil et en Colombie. Des dizaines de millions de dollars d'aide ont été promis par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Mais encore faut-il qu'elle arrive, cette aide. Guaido a appelé les militaires à la laisser passer et visiblement, il n'a pas été entendu puisque sur ordre de Caracas, les gardes frontières ont barré la route à Cúcuta. Ouais. Ils ont mis un camion-citerne et deux conteneurs en travers du pont qui relie les deux pays.
Quel est l'état d'esprit des Vénézuéliens que vous avez rencontrés, à part évidemment la fatigue qui est liée à cet état de survie? Qu'est-ce qui prend le dessus? La détermination ou la peur, notamment la peur de la répression?
Eh bien, la peur de la répression, on peut presque dire qu'ils l'ont dépassée parce que plusieurs Vénézuéliens m'ont expliqué qu'avec tous les morts de ces dernières années, on parle là de plusieurs centaines de manifestants tués par balle par les forces de l'ordre, Eh bien, ils n'ont plus peur de rien, si l'on peut dire. La preuve, il y a 8 jours, ils étaient encore plus nombreux dans les rues. Et cela malgré la mort par balle d'une 40aine de personnes le jour de la proclamation de Guaido. Alors, ils sont déterminés, oui, mais également un peu surpris. Personne, pour être franc, n'imaginait que quelqu'un pourrait prendre la tête de la contestation, tellement Maduro règne en maître sur le pays. Guaido est un peu sorti de nulle part, il faut le dire. Alors, il est adulé par certains, par ses partisans, mais la majorité ne le voit pas comme l'homme providentiel. Ils attendent surtout que Maduro parte, peu importe, ou presque, qui pourrait le remplacer.
Une nouvelle mobilisation attendue donc après-demain, mardi, dans les rues de Caracas et d'ailleurs dans le pays. Merci beaucoup Pascal Meno. Je rappelle que vous venez de rentrer du Venezuela et on continuera à suivre l'évolution de ce pays d'Amérique du Sud. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Europe 1.
Après-demain aussi, mais cette fois à Madrid, commence un procès qui est dans toutes les conversations en Espagne. Celui de 12 indépendantistes accusés d'avoir voulu séparer la Catalogne du reste du pays. Ils risquent jusqu'à 25 ans de prison. On vous raconte tout dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Sophie Larmoyer. On prend maintenant la direction de l'Espagne pour évoquer l'affaire dont tout le monde parle là-bas en ce moment.
C'est un procès historique qui s'ouvre après-demain à Madrid en Espagne. 16 mois après un référendum contesté et une déclaration d'indépendance sans lendemain, 12 dirigeants catalans seront face aux juges. Accusés de rébellion, sédition et malversation, ils risquent 7 à 25 ans de prison. 9 des 12 accusés sont en détention provisoire depuis près d'un an et demi. Parmi eux, Jordi Cuixart, l'une des figures du mouvement séparatiste. Henri de Laguéry a pu rencontrer ses proches et échanger avec lui par écrit. Quoi qu'on en pense sur le fond, c'est un homme au moral d'acier qui affronte ce procès. Reportage.
Dans une salle de réception de la mairie de Barcelone, Chail Bonet, 43 ans, pose devant les photographes aux côtés d'autres familles de dirigeants indépendantistes. À quelques jours du début du procès, la mairie a souhaité les recevoir en signe de soutien. La vie de cette jeune mère de famille a basculé il y a près d'un an et demi lorsque son mari, Jordi Cuixart, leader d'un lobby indépendantiste, a été incarcéré. Mardi, il sera face au juge, accusé de rébellion et de sédition.
Il est dans un état d'esprit très fort, très courageux, il a beaucoup d'énergie. Il est quelqu'un très positif, ça c'est très étonnant parce qu'après plus de 15 mois dans la prison, ça fait difficile à croire. Alors nous sommes toujours préparés pour le pire et en attendant le meilleur.
Jordi Cuixart a 43 ans, lui aussi c'est un ancien chef d'entreprise qui se revendique de gauche. La justice lui reproche d'avoir mobilisé les foules lors du référendum pour bloquer des perquisitions judiciaires et occuper des bâtiments publics. Le parquet réclame contre lui 17 ans de prison en détention provisoire près de Barcelone. L'activiste qui porte une barbe grise et les cheveux longs n'a pas le droit de parler au micro, mais il a répondu à nos questions par écrit. Sa détermination est intacte.
Personnellement, je suis heureux. En tant que prisonnier politique, j'ai le privilège de pouvoir me battre pour une cause juste. Je sais que ce sera difficile, mais historiquement, dans la lutte pour la démocratie, il n'y a jamais eu de place pour la tristesse ou les lamentations.
Pendant tous ces mois de détention, juste avant leur transfert à Madrid la semaine dernière, Cuixart et les 8 autres dirigeants incarcérés ont pu compter sur le soutien des militants indépendantistes. Chaque soir, une centaine d'entre eux s'approchaient de la prison pour leur crier des messages d'encouragement, dont celui-ci « Vous n'êtes pas seul ». Jordi Cuixart entend faire de ce procès une tribune pour dénoncer ce qu'il considère comme une violation des droits de l'homme.
Il veut profiter de cette situation pour accuser l'État de la vulnération des droits fondamentaux, des droits de manifestation, des droits de la liberté d'expression et des droits de la proteste. Le truc, c'est que mon mari, il n'est pas en prison à cause d'avoir tué quelqu'un. Ce n'est pas un crime dans les codes pénals espagnols d'organiser un référendum. Ce n'est pas un crime de lui donner soutien. Et mon mari, ce qu'il a fait, c'est donner soutien à la possibilité d'un référendum.
16 mois après le référendum et la tentative ratée de sécession, les dirigeants catalans n'ont aucun regret, convaincus de n'avoir fait qu'obéir à une volonté populaire. Dans ses réponses écrites, Jordi Cuixart veut nous dire son sentiment d'avoir participé à un événement historique.
Ce qui s'est passé le 1er octobre, c'était un exercice de désobéissance civile, comparable aux marches des droits civiques aux États-Unis à mai 68, à la lutte pour le droit de vote des femmes ou au mouvement pour l'abolition du service militaire obligatoire. Voter pour décider de son avenir, c'est la manière la plus pacifique qui existe. Notre lutte, c'est la même que celle des combattants du siècle dernier, comme Romain Rolland, Altiero Spinelli, Martin Luther King ou encore Rosa Parks.
Le référendum interdit par Madrid avait été marqué par des violences policières. Les images avaient ému l'opinion publique, mais personne n'avait reconnu la République catalane. Aujourd'hui encore, les séparatistes sont isolés. Pour le procès, ils ont réclamé la présence d'observateurs internationaux, demande refusée par le juge. Un petit groupe d'eurodéputés dénonce pourtant leur situation. José Bové a récemment rendu visite aux prisonniers catalans.
On a rencontré des personnes debout. Je pense que le gouvernement espagnol, en les incarcérant, a encore renforcé leurs convictions. Et pour nous, en tant qu'Européens, c'est quelque chose qui est contraire aux droits fondamentaux. Aujourd'hui, on est au cœur de l'Union européenne et ce qu'on reproche à la Turquie, c'est ce qui se passe actuellement en Espagne.
Malgré son esprit combatif, Kouchar est convaincu que ce procès aboutira à une condamnation. Il pense déjà au recours qu'il présentera devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Pas question pour lui de demander une grâce une fois le verdict connu. Ce serait reconnaître sa culpabilité. Mais le grand absent de ce procès sera Carles Puigdemont. Pour échapper à la justice, l'ancien président catalan s'est installé à Bruxelles. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Voilà pour le point de vue des indépendantistes à quelques jours du début de ce procès qui est extrêmement attendu en Espagne. On vous retrouve, Henri de la Guérie, depuis Barcelone. Bonjour.
Et bonjour Sophie.
Alors racontez-nous comment ça va se dérouler et que risquent les accusés ?
Alors, le procès va durer 3 mois avec un verdict qui tombera seulement l'été prochain. 12 personnes seront donc jugées par la Cour suprême à Madrid. C'est le plus haut tribunal espagnol. Parmi elles, 9 anciens membres du gouvernement catalan, dont l'ancien vice-président Oriol Junqueras. Le parquet réclame contre lui la plus lourde peine, 25 ans de prison. Wow. Les autres, on l'a dit, risquent des peines qui vont de 7 à 17 ans. Parmi la centaine de témoins cités à la barre, Mariano Rajoy, l'ancien Premier ministre, ou encore Ada Colau, la maire de Barcelone.
C'est un procès qui sera vraiment suivi dans toute l'Espagne.
Oui, absolument. Il sera diffusé en direct à la télévision. 650 journalistes sont accrédités. Et voilà, je peux vous dire qu'à 48 heures du coup d'envoi, le climat est électrique ici. Des milliers de personnes manifestent d'ailleurs aujourd'hui à Madrid, drapeau espagnol à la main pour défendre l'unité du pays. Tandis que de leur côté, les indépendantistes ont annoncé plusieurs mobilisations jusqu'en avril pour dénoncer, je cite, un procès politique.
Alors justement, Henri, ils estiment qu'ils sont jugés pour leurs idées. Que répond le gouvernement ? Que répond la justice aussi ?
Vous vous en doutez, seuls les séparatistes pensent qu'il s'agit d'un procès politique. Les juristes sont bien plus mesurés. Gabriel Colomé, par exemple, donne des cours de sciences politiques à l'université. Il est proche des socialistes, il défend l'unité de l'Espagne et en même temps, il connaît personnellement certains des accusés. Il regrette, comme beaucoup, ces longs mois de détention provisoire, mais pour autant, il assure que les dirigeants catalans savaient très bien ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont voté les lois pour le référendum et les textes de rupture avec l'Espagne.
Ils ne sont pas devant le juge pour avoir mis des urnes le 1er octobre. Ils sont devant le juge parce qu'ils ont fait quelque chose de plus grave. Ils ont voté une loi de référendum et une deuxième loi qui était de transition et fondationnelle de la République. Ce jour-là, ils ont dynamité littéralement la Constitution, le statut d'autonomie et l'état de droit en Espagne, en Catalogne. C'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils ont commis une chose qui... les démocraties et les constitutions démocratiques ne permettent pas.
Henri, les prévenus sont poursuivis pour rébellion et ce chef d'accusation fait débat en Espagne.
Oui Sophie, parce que rébellion, c'est très grave. Les juges auront donc à trancher cette question fondamentale. Y a-t-il eu violence ou non lors de la tentative de sécession ? Car l'existence de ce qu'on appelle ici un soulèvement violent est une condition indispensable au délit de rébellion en Espagne. Alors le mouvement est resté pacifique l'année dernière, mais le parquet estime que les séparatistes étaient prêts à utiliser la force. La justice pourrait peut-être retenir finalement le complot en vue de rébellion, ce qui entraînerait des peines de prison moins lourdes.
Donc ça s'annonce technique comme débat, et pourtant sur le fond ce sera forcément politique.
Bien sûr, et les observateurs les plus optimistes veulent croire que les juges sauront faire preuve de clémence, qu'ils éviteront de lourdes condamnations qui ne feraient que jeter un peu plus d'huile sur le feu entre l'Espagne et la Catalogne. Mais jusqu'à présent, la justice a été très sévère contre les indépendantistes et c'est pas sûr que ça change.
L'ouverture donc de ce procès des indépendantistes catalans mardi après-demain à Madrid, ça durera plusieurs mois et ça alimente toutes les conversations en Espagne. Nous avez-vous dit, Henri, merci beaucoup pour ces explications et à très vite dans les carnets.
Ouais, à bientôt Sophie.
Europe 1.
À suivre, vous mettez un peu de Chine, un peu d'Amérique, vous mélangez bien et ça fait un beau roman dont Nicolas Carreau vient nous parler. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
13h20, un livre dans le monde, un conseil de lecture que nous offre Nicolas Carreau chaque dimanche avec vous, Sophie Larmoyer.
On fait une sorte de tour du monde de la littérature avec vous, Nicolas. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Cette semaine, vous nous présentez une auteure chinoise.
Elle s'appelle Jenny Zhang. Les éditions Piki ont traduit son roman Âpre cœur. C'est Anne-Sophie Rouvelou de la librairie L'Écriture à Vaucresson qui me l'a conseillé. Elle est souvent très enthousiaste, Anne-Sophie, mais quand elle m'a parlé de ce livre, j'ai senti qu'elle s'était toujours pas remise de cette lecture. C'est le genre de lecture dont on se souvient longtemps et qui ne laisse pas indemne.
Et vous avez voulu vérifier, tel que je vous connais ?
Oui, et alors, ouf, la claque. D'accord. Nous sommes avec des migrants chinois. Ils sont arrivés aux États-Unis. Et comme dit la jeune narratrice au début, on nous avait dit que la première année était forcément dure, mais on ne nous avait pas prévenu pour la deuxième. Ouais. Et effectivement, c'est dur. C'est même carrément les misérables au début. Ça commence comme ça. C'est Christina qui parle. Elle vit avec ses parents dans un taudis. À cette époque, on habitait dans un deux pièces si insalubre qu'en se réveillant, on trouvait des cafards écrasés entre nos draps, parfois même 3 ou 4 collés sur nos coudes. Et un jour, j'en avais 14 pressés contre mes mollets.
Bonne ambiance.
Et encore, je vous ai épargné les passages les plus gores. Je vous le dis tout de suite, c'est un livre très, très cru. Dans sa critique, le New Yorker a écrit « obscène, beau et bouleversant ». Et c'est vrai, ça ne prend pas de pincettes, c'en est même dérangeant parfois, mais du coup, ça sonne très juste. Le langage s'accorde avec la situation. Les parents et leurs filles déménagent tout le temps, de chambre collective délabrée en chambre collective délabrée. Ils n'ont les moyens de rien. Écoutez ça, elle parle de ses parents. Ils consacraient chaque seconde de chaque journée à planifier un nouveau sacrifice afin d'améliorer notre existence. Et j'avais beau m'appliquer à essayer d'être à la hauteur, il y avait trop de choses indiscernables. C'était difficile de se répertorier tous ces petits détails. Par exemple, le fait qu'ils se partageaient une seule paire de chaussures de ville, alternant leur emploi du temps de telle sorte que mon père les portait pendant la journée et ma mère la nuit, même si elles étaient 4 tailles au-dessus de la sienne.
En tout cas, elle a une chose sur l'amour de ses parents.
Exactement. Et tout est là, en fait. Dans ce décor super glauque, ce qui les maintient en vie, c'est cet amour inconditionnel qui les sauve. Ensuite, on change de chapitre régulièrement et de voix, on change de narratrice. Et toutes, ce sont 7 préadolescentes asiatiques qui nous racontent la difficulté de s'insérer dans la société américaine dans les années 90. Il n'y a pas de point de vue masculin. C'est ça aussi ce qui fait un peu la différence de ce roman.
Mais c'est un genre d'histoire assez classique. Qu'est-ce qui rend le roman si particulier ?
C'est le style. Virtuose, Jenny Zhang donne la parole à des enfants, en fait des filles, et sa manière d'écrire avec une certaine violence, mais aussi une forme de réalisme. Santiago Artoski, son traducteur.
C'est le tour de force qu'elle a réussi, quoi. C'est-à-dire que ses héroïnes sont des enfants, et elles parlent avec une voix d'enfant, mais elles parlent aussi avec une voix d'adulte. Et elle a réussi à manier les deux et à rendre ça crédible. C'était d'ailleurs un des défis de la traduction que de traduire ça en français et de parvenir au même résultat, c'est-à-dire avoir des propos complètement obscènes, voire scato par moment, et en même temps faire sentir quand même que c'est une enfant qui parle avec un imaginaire et une voix d'enfant, quoi.
Et ce sont des enfants placés dans des situations particulières aussi, Nicolas.
Absolument. Et c'est pareil, les histoires de migrants, on en a lu plein. Ouais. Là, on comprend leur situation, on la vit.
Effectivement, ce roman dit le monde, ou du moins dit un monde, qui est celui de l'immigration chinoise à New York. Et il le décrit, mais surtout il le fait ressentir. En quelque sorte, c'est un peu un roman réaliste aussi. Il a cette vertu-là, effectivement, de donner à comprendre de manière sensible ce que peut être l'existence et la difficile existence des immigrés en général et des immigrés chinois à New York en particulier.
C'est vrai qu'on parle très peu d'immigration asiatique ici, en tout cas.
Et effectivement, et c'est ce qui rend aussi ce roman intéressant. Il faut dire que Jenny Zhang, elle est chinoise, elle est née à Shanghai, mais elle est arrivée très jeune aux États-Unis.
Et
il y a toute une dimension autobiographique dans ce livre aussi. D'ailleurs, il y a une des narratrices qui s'appelle Jenny. Voilà. Mais ce n'est pas seulement un roman politique. L'histoire, les situations elles-mêmes sont dingues. C'est un vrai roman, je veux dire. On n'est pas juste dans Les Misérables, les immigrants qui arrivent, et puis c'est dur et c'est tout. Non, non, c'est même très drôle parfois, mais très cru, et avec cette énergie surtout, une énergie folle, une force. C'est un grand roman. Je vous ai parlé du New Yorker tout à l'heure. Le Times a écrit cette critique définitive. « Laissez tomber tout ce que vous êtes en train de lire. Il n'y a qu'un seul livre, et c'est celui-ci. » C'est pas mal, quand
C'est bien vendu. Ça a le mérite d'être clair. Ce livre, c'est donc Âpre cœur de Jenny Zhang aux éditions Piquier. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Sophie.
Europe 1.
Et de l'amour familial qui sauve d'une terrible situation, on passe à l'amour un peu guimauve que tant de personnes se souhaitent à travers le monde le 14 février. C'est dans 4 jours, la Saint-Valentin. Et notre héroïne, dans un instant, dans les carnets, c'est la rose.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h27, maintenant Sophie Larmoyer, on suit le parcours de toutes ces roses qui seront offertes dans 4 jours pour la Saint-Valentin.
Quand vous achetez des roses chez votre fleuriste, il y a à peu près une chance sur deux qu'elles proviennent du Kenya. Le pays figure dans le top 5 des producteurs de fleurs coupées au niveau mondial. Avec 650 millions de tonnes de fleurs exportées chaque année, la floriculture représente 2% du PIB kenyan, c'est-à-dire de la richesse produite par le pays. Les fleurs rapportent au Kenya l'équivalent de 700 millions d'euros par an. Un secteur primordial donc, qui a longtemps souffert d'une mauvaise réputation, notamment en raison des conditions de travail déplorables. Mais les choses changent dans les roseraies kenyanes. Reportage à une centaine de kilomètres de Nairobi, Charlotte Simonard.
Dans les serres de Redland Roses, une plantation franco-belge créée il y a plus de 20 ans, c'est l'heure de la récolte pour Bénédicte Canini. Tablier vert, bottes en caoutchouc et sécateur, elle répète les mêmes gestes depuis maintenant 13 ans.
Laissez-moi voir si la rose est solide, comme celle-ci. Je coupe à 10 cm du pied.
Le secteur emploie 250 000 personnes comme Bénédicte et fait vivre 2 millions de Kenyans. Une fois coupées, les roses resteront entre 4 et 6 heures en chambre froide avant d'être triées, taillées et contrôlées dans un grand hangar. Une course contre la montre car la fleur doit tenir au moins 7 jours dans le vase des clients. Redland Roses exporte 15 millions de tiges par an vers l'Europe mais aussi la Russie et la Chine. Scola Gikonyo est responsable qualité de la plantation.
Celles-ci sont nos meilleures ventes. Cette variété de rose s'appelle Julieta. Cette commande a été faite ce matin et dans 2 jours, elle sera à Paris après avoir transité par les Pays-Bas. Et dès cette nuit, elles seront dans l'avion.
En ce moment, évidemment, la fleur de toutes les attentions est la rose de la Saint-Valentin. La fête des amoureux représente 30% de la production annuelle du secteur. Sur l'année entière, le Kenya s'arroge 40% du marché européen de la fleur coupée. Il faut dire que le pays offre des conditions idéales, une logistique développée, une main-d'œuvre qualifiée et surtout un climat avantageux. À l'équateur et à 2000 mètres d'altitude, c'est la garantie d'une production annuelle quasiment continue. Un tableau d'autant plus idyllique qu'il y a 10 ans encore, la rose kenyane était l'objet de tous les scandales. Conditions de travail déplorables, gaspillage de l'eau et abus de pesticides. Julius travaille pour une plantation autrichienne depuis près de 15 ans. Il se souvient de cette époque.
J'étais chargé de pulvériser des produits chimiques, parfois de classe 1, ceux qui ne sont pas autorisés à être pulvérisés par l'homme. Je n'avais pas de protection. Je travaillais de minuit à 7 heures du matin. J'avais des allergies, de l'asthme, ma poitrine me faisait mal. J'étais payé 20 euros par mois. Je ne pouvais pas nourrir ma famille ni éduquer mes enfants correctement.
Ce qui a changé la vie de Julius, c'est la création en 2010 d'un syndicat enfin accepté par l'entreprise.
Ils ont négocié pour améliorer nos conditions de travail, nos salaires et nos droits. Aujourd'hui, je gagne 120 euros par mois avec une allocation pour ma maison et mes heures supplémentaires sont rémunérées.
Ces 10 dernières années, les syndicats se sont imposés dans la majorité des plantations et les contrôles du gouvernement sont désormais réguliers, comme nous le confie Isabelle Spindler, la directrice de Redland Roses.
Conditions de travail, ça c'est très très normé et très très contrôlé à la fois par le gouvernement kenyan, l'État et par les standards. Au niveau uniforme, protection, dans les serres, etc., ça c'est extrêmement contrôlé. Je ne vois pas très bien quelle ferme pourrait ne pas respecter ça. Après, il y a les niveaux de salaire. Donc il y a un accord syndical qui est signé, interprofessionnel, qui fixe le salaire minimum pour les exploitations de fleurs au Kenya, c'est valable 2 ans. Et ça fixe aussi les augmentations. Certaines entreprises travaillent avec ces minimums. D'autres comme nous, on paye plus.
Car après les scandales, il a fallu redorer l'image de la rose kenyane. Clément Toulési est le responsable du Kenya Flower Council, une association qui regroupe 80% des entreprises du secteur.
Le marché nous demande toujours plus de prouver que nous tenons compte des problématiques sociales dans le secteur. Les droits des travailleurs, les soins de santé, les violences faites aux femmes. Quand vous regardez 10 ans en arrière et ce que l'on a accompli aujourd'hui, il y a une énorme différence. Les producteurs sont devenus plus responsables car ils savent que s'ils ne répondent pas à ces problématiques, ils vont perdre des marchés.
L'industrie des roses participe grandement au développement du Kenya. Reste un défi de taille, diminuer l'impact environnemental de la floriculture. Mais selon des spécialistes du secteur, en cette période hivernale, la rose kenyane, même importée d'Afrique, a une empreinte écologique 5 fois moindre que celle cultivée sous serre en Europe. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Eh oui, pas besoin de lui mettre un petit chauffage à la rose kenyane. Et figurez-vous qu'en ce moment, juste avant la Saint-Valentin, 8 à 13 avions cargo partent chaque jour de Nairobi pour l'Europe. C'est fou, chaque avion fait 120 tonnes, rendez-vous compte. Et vous savez où ils atterrissent ? À Amsterdam, aux Pays-Bas. Et en 2 temps 3 mouvements, les roses se retrouvent à quelques kilomètres de là, sur le plus grand marché de fleurs du monde. Ça y est, nous y sommes, grâce à Isabelle Horry.
Des millions de fleurs qui changent de main, il est 6h du matin et au début, on ne voit rien, juste des visages concentrés devant des écrans où s'affiche une étrange horloge, c'est la criée, la vente aux enchères. Un clic à chaque fraction de seconde, un achat à chaque clic. Mais à l'étage au-dessous, plus les minutes passent, plus l'effervescence s'accroît. Bientôt, à perte de vue, des centaines de chariots circulent dans tous les sens. Partout, des roses, des tulipes de toutes les couleurs semblent s'entrecroiser.
Ici, les fleurs qui sont passées aux enchères il y a quelques minutes vont être apportées aux acheteurs le plus vite possible. Car dans ce business, le temps est un facteur très important.
Michel Vansrie est le porte-parole de cette énorme bourse aux fleurs. La superficie des hangars égale celle de la principauté de Monaco. L'aéroport d'Amsterdam est tout proche. Chaque nuit, des fleurs arrivent du monde entier et viennent s'ajouter à la production locale. Elles attendent dans des entrepôts frigorifiques. Dès qu'elles sont vendues aux enchères, elles entrent via des rails automatiques dans la zone de distribution. Malgré la pagaille apparente, tout est très organisé.
Le chauffeur prend un chargement de fleurs, il le scanne et là il entend dans son casque une voix informatisée. Elle lui dit où exactement il doit apporter les fleurs et combien de sauts de fleurs il doit embarquer.
En fait, on se croirait dans un film de science-fiction. Les petits chariots amènent les fleurs vers de grandes portes situées de l'autre côté. La matinée se termine, les grossistes qui ont acheté des lots attendent, comme Marc Limen.
Ici, un échantillon de la fleur pour le Saint-Valentin. Ça, c'est de production hollandaise de roses. Ça, c'est de Kenya et ici, de l'Équateur. On peut voir un peu la différence et que la qualité, on vend, c'est bien, oui ou non.
La qualité vérifiée, les fleurs sont à nouveau embarquées dans des camions. Elles partent vers toute l'Europe et le Moyen-Orient. En fin de journée, elles arriveront dans les boutiques pour être vendues le lendemain.
Reportage d'Isabelle Horry au cœur du plus grand marché de fleurs du monde, grand comme la principauté de Monaco, c'est fou. C'était aux Pays-Bas un petit matin de cette semaine et Isabelle est de retour à Bruxelles. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Alors ce Wall Street des fleurs en quelque sorte, on sent bien que c'est une véritable ruche. J'imagine que c'est encore plus vrai à la Saint-Valentin.
La Saint-Valentin et la fête des mères, ce sont les deux périodes les plus intenses de l'année. Hein. Et c'est d'ailleurs surprenant d'entendre tous ces chefs d'entreprise et ces acheteurs très sérieux parler avec autant de sérieux de ces deux fêtes et de leurs préparatifs. Pour eux, ça représente des millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans les jours qui précèdent le 14 février, 150 millions de roses s'échangent à Alsmer. C'est phénoménal. Il faut savoir que dans cette zone industrielle de la banlieue d'Amsterdam transite une fleur sur 3 vendue dans le monde.
Et avec ce système de vente aux enchères, les prix des roses doivent flamber ?
Oui, parce que c'est l'hiver, hein. C'est pas la bonne saison pour les roses hollandaises. Beaucoup de fleurs viennent donc du Kenya et aussi d'Équateur. En début de semaine dernière, une belle rose se vendait autour d'un euro aux enchères. Et avant la Saint-Valentin, ça peut monter jusqu'à 4 euros la tige, comme disent les professionnels. C'est un vrai métier de savoir anticiper parce que les commandes sont souvent passées par les fleuristes quelques jours à l'avance. Les grossistes doivent connaître les desiderata de leurs clients et croiser les doigts ensuite pour ne pas avoir fixé un prix trop bas. Ouais. Les enchères, c'est quand même un peu la roulette. Max Sornin est français et il est dans la fleur, comme il dit, depuis des décennies.
Vous avez de la rose qui commence à 40 cm. En général, le top, c'est 80 cm. Le marché français, bon, c'est soit de la 70 cm en gros boutons, et après, on descend tout de suite à 50 cm. Chaque semaine, mes clients me demandent de la rose à petits boutons avec un prix très bas. C'est aussi mon boulot de faire que ça soit possible.
Ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires la semaine de la Saint-Valentin ? C'est particulier ?
Bien sûr, c'est un pic, mais en général, qui est suivi après par un creux. C'est la Saint-Valentin, donc c'est cher, il y a beaucoup de demandes et compagnie. Bon, la semaine d'après et la semaine encore après, tout d'un coup, chiffre d'affaires, il est très bas.
Il faut avoir les nerfs solides.
Voilà.
Des nerfs d'acier et puis prendre des vacances peut-être, hein, au moment où ça se vend plus. C'est florissant, le commerce des fleurs ?
C'est dur, hein, des horaires difficiles, beaucoup de concurrence. Max, par exemple, a fait faillite au début des années 2000. En plus, il y a quelques nuages à l'horizon. Hein. Déjà, ce commerce émet beaucoup de CO2 avec tous ces transports ou les cultures en serre. C'est mauvais pour le climat. Et puis, ces temps-ci, le Brexit inquiète beaucoup à Alsmer. Les fleurs doivent pouvoir voyager très vite. C'est un produit périssable, évidemment. Et les entreprises ont peur des embouteillages s'il y a des contrôles douaniers dans les ports des deux côtés du Channel. Écoutez Michel Vansry, le porte-parole du Wall Street des fleurs.
Nous exportons plus de 800 millions d'euros de fleurs par an vers le Royaume-Uni. C'est notre troisième marché après l'Allemagne et la France. Bien sûr, les Britanniques vont continuer à acheter des fleurs. Mais le problème, c'est que le prix va sans doute augmenter à cause des procédures plus compliquées. Et si en plus la livre sterling se dévalue, alors les fleurs seront plus chères que par le passé.
Et si elles sont plus chères, bah les Britanniques en achèteront moins. Alors voilà, Sophie, il y a un lien entre les bouquets de roses et la géopolitique mondiale.
Vous êtes quand même incorrigible, Isabelle. Moi qui espérais vous sortir un peu la tête du Brexit grâce à ce reportage aux Pays-Bas,
c'est raté.
Enfin, vous pouvez dire vous aussi que cette semaine, vous étiez dans la fleur. C'est chic.
Ouais, juste provisoirement.
C'est ça. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt, Sophie.
Europe 1, les carnets du monde.
J-4 pour la Saint-Valentin. Sophie Larmoyer, il est 13h40. On va poursuivre notre petit tour du monde du rendez-vous des amoureux.
On le sait, on est tous d'accord, la Saint-Valentin est une fête commerciale. Mais avec le temps, certaines habitudes deviennent presque des traditions. Direction le Japon. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Bernard, vous êtes notre correspondant à Tokyo. Et alors, chez vous, au Japon, le 14 février, tout le monde s'empiffre de chocolat.
Oui, les Japonais adorent ça. Ce sont les sixièmes plus grands consommateurs au monde de chocolat. Rien qu'à la Saint-Valentin, ils en achètent pour un montant total de 1 milliard d'euros.
Wow.
Notamment parce qu'ici, la tradition veut que le 14 février, les femmes offrent du chocolat aux hommes. Non seulement à leurs conjoints, mais aussi à toutes leurs connaissances masculines, et notamment à leurs collègues de bureau.
Leurs collègues de bureau, c'est quand même un peu dingue, et ça porte même un nom.
Oui, c'est ce qu'on appelle le giri choco. Choco, ça vient de l'anglais chocolate, et giri en japonais signifie obligation, devoir.
Ça a le mérite d'être clair, on est assez loin de la notion de plaisir d'offrir.
Ouais, et en fait, beaucoup de japonaises ont horreur de cet usage professionnel. J'ai rencontré deux employés de bureau que cette tradition annuelle irritait tellement qu'elles ont fini par changer de boulot. Écoutez d'abord Naoko, 39 ans. Son ex-employeur l'a tyrannisée pendant des années à la Saint-Valentin.
Je suis soulagée d'échapper désormais à cette corvée. Le 14 février, toutes les employées étaient tenues d'offrir des chocolats au patron. Des chocolats de marque en plus. Et si l'épouse du patron, qui vérifiait systématiquement, jugeait que les chocolats offerts étaient bas de gamme, eh bien les employées fautives étaient sanctionnées. Par exemple, elle touchait des primes de fin d'année moins élevées. Pour moi, ça relevait du harcèlement moral. J'avais l'impression d'être en Corée du Nord.
On croit rêver, Bernard, ces histoires de prix minorés, de la femme du patron qui vérifie la qualité des chocolats, des salariés obligés d'offrir des cadeaux.
Oui, mais au Japon, énormément de femmes subissent ça le 14 février. Et encore plus les jeunes employés. Comme Ayako, il y a quelques années, à peine sortie de la fac, elle a décroché son premier emploi. Mm-hmm. Et là, stupeur, elle a découvert qu'étant la plus jeune, il lui revenait chaque 14 février d'aller acheter des guiris de choco de toutes les femmes de son service. Elle lui donnait de l'argent, puis pendant ses heures de bureau, Ayako devait se taper le shopping guiris de choco pour toute son équipe. Et ça lui était vraiment pénible.
Il n'était pas question de faire la même chose à tout le monde. Chocolat noir, au lait ou praliné, je devais tenir compte des préférences de chacun. Donc ça prenait un temps fou d'acheter tout ça. Du temps perdu que je devais récupérer en faisant des heures supplémentaires qui ne m'étaient même pas payées en plus.
Des heures sup non payées, c'est fréquent au Japon, hein, n'est-ce pas ?
Oui, très fréquent. On appelle ça les heures de service ou de courtoisie. Ouais. Les employés sont priés de temps à autre de montrer leur dévouement à leur entreprise en acceptant de travailler quelques heures bénévolement. Pour revenir au guirichoko, deux choses énervaient particulièrement Ayako. L'ingratitude de ses collègues masculins et le manque de solidarité de ses collègues féminines.
Les hommes à qui j'offrais ces chocolats me remerciaient à peine. Ils savaient bien que ce cadeau ne venait pas du cœur, mais que c'était juste une obligation. Donc pour moi, cette tradition n'a vraiment aucun sens. Mais je n'avais pas le choix, car c'était la femme la plus haut gradée dans l'entreprise qui régentait toute cette distribution de chocolat. Il m'était donc impossible de m'y opposer.
Alors on comprend en écoutant Ayako que cette pression qui pèse sur les employées japonaises à la Saint-Valentin n'émane pas seulement des hommes, mais aussi parfois des femmes. Oui. Et personne ne remet en cause cet usage, Bernard ?
Eh bien si, en fait. De plus en plus de Japonais s'y opposent. Au point que certaines entreprises en sont venues à interdire le guirichoko. Car en fait, il crée souvent des tensions au sein du personnel. Ouais. Les femmes râlent de devoir offrir des chocolats, les hommes sont vexés quand ils n'en reçoivent pas, etc. Un sondage vient de montrer que 40% des employés nippons, hommes et femmes confondus, assimilent cet usage à du harcèlement moral. D'ailleurs, le guirichoko est devenu si contesté que les chocolatiers commencent à essayer de trouver une parade en termes de marketing. Depuis quelques années, par exemple, chaque 14 février, une grande marque de chocolat ici fait une campagne de pub qui prône l'abandon de cette obligation et invite les Japonaises à acheter du chocolat uniquement pour le plaisir.
Ouais.
Ce qui se fait de plus en plus souvent, du reste. Cette année, seul un tiers des chocolats qui seront achetés au Japon à la Saint-Valentin serviront au guirichoko. C'est moins d'année en année.
Et les deux autres tiers des chocolats achetés, alors ?
Eh ben, dans 40% des cas, les Japonaises offriront des chocolats non à leurs collègues ou à leurs patrons, mais à des amis. C'est une nouvelle pratique, en quelque sorte, qui se répand tellement qu'elle a déjà un nom, qui s'inspire d'ailleurs du guirichoko. On appelle ça le tomochoko de tomodachi, qui veut dire ami en japonais.
Ah ben, très bien, vive le tomochoko, alors ! Les salariés japonais, et les femmes en particulier, subissent assez de pression comme ça pour ne pas en rajouter... À la Saint-Valentin, qui est donc la fête des amoureux, messieurs les Japonais, et pas la fête des collègues de bureau. Merci beaucoup, Bernard. J'espère que vous recevez plein de tomochoko cette semaine, hein, parce que vous le valez bien. À bientôt. À bientôt dans les carnets.
Merci à vous, Sophie. À très bientôt.
Et on reste en Asie, mais on descend un peu plus au sud, en Thaïlande, où nous attend notre correspondante Carole Izou. Bonjour, Carole.
Bonjour Sophie.
Alors pas de chocolat chez vous, il fait beaucoup trop chaud pour ça, vous m'avez dit. Mais non. Les Thaïlandais, eux aussi, se sont appropriés cette fête de la Saint-Valentin en y ajoutant leur petite touche locale, évidemment. Le 14 février au matin, certains couples se rendent dans un temple bouddhiste. Pourquoi faire ?
Alors vous vous souvenez peut-être, Sophie, j'avais déjà évoqué ces cérémonies de renaissance d'inspiration bouddhiste où il s'agit de simuler la mort pour mieux renaître. Eh bien, ouais. C'est la même chose pour l'amour. En ce jour de la Saint-Valentin, les couples viennent s'allonger l'un près de l'autre dans un cercueil, bien sûr. Quand ça ne va plus avec votre compagnon, vous pouvez vous rendre dans l'un de ces temples qui proposent donc cette cérémonie. Les temples spécialisés ont d'ailleurs des cercueils de place prévus à cet effet. Et en quelques minutes, vous vivez la mort de votre amour et la renaissance d'un nouveau, plus neuf, plus beau, évidemment. Bref, vous repartez littéralement à zéro avec votre tendre et cher. À entendre certains moines, le rituel est bien plus efficace que n'importe quelle thérapie de couple.
On n'en doute pas. Bon, et à part ça, quand c'est pas la grosse crise et qu'on n'a pas envie d'aller dans un cercueil, qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin chez vous en Thaïlande ?
Alors, si tout va bien, bien vous pouvez toujours vous marier, hein, puisque c'est le jour de l'année où on se marie le plus en Thaïlande.
Ah oui.
D'ailleurs, certains couples décident de combiner au temple la cérémonie de la Renaissance avec celle du mariage religieux bouddhiste, mm-hmm. afin de commencer leur vie conjugale sur de bonnes bases. La plupart des temples, d'ailleurs, acceptent les couples de toute orientation sexuelle, alors que le mariage gay n'est pas encore autorisé dans la loi civile. Mm-hmm. Côté mariage civil, justement, comme les Thaïlandais sont très attachés au symbole, certains districts ont beaucoup de succès du fait de leur nom jugé romantique, comme Bangrak, c'est un arrondissement de Bangkok, ouais. ça veut dire le village de l'amour. Le jour de la Saint-Valentin, vous êtes sûr d'y faire plusieurs heures de queue au service des mariages. Sinon, pour les amoureux de l'océan, vous pouvez toujours participer au grand mariage collectif en plongée sous-marine, organisé tous les ans dans l'île de Kokradan, au sud du pays.
Bon, et si c'est pas encore l'heure de se marier, chez les plus jeunes, comment ça se passe ?
Alors, les adolescents thaïlandais s'offrent, comme tout le monde ici, des ours en peluche et autres fleurs artificielles, hein, puisque les fleurs fraîches en Asie du Sud sont plutôt réservées aux offrandes religieuses. Mais plusieurs études ont démontré que la Saint-Valentin est aussi souvent l'occasion de la première expérience sexuelle chez les adolescents thaïlandais, dès l'âge de 13-14 ans. La Thaïlande, même si elle est l'un des pays à l'économie les plus développés de la zone, elle a aussi l'un des taux de grossesse adolescente les plus élevés au monde. La contraception y est pourtant permise, mais pas l'avortement, culture bouddhiste oblige. Donc la Saint-Valentin est toujours l'occasion pour le gouvernement d'organiser de grandes campagnes d'information destinées à la jeunesse.
Et ça fonctionne ?
Non, on ne peut pas dire que ça marche très bien, puisque en fait, les dites campagnes de sensibilisation conseillent aux adolescents, plutôt que d'avoir des relations sexuelles, eh bien, d'aller au temple, justement, ou de libérer ensemble des oiseaux ou des poissons emprisonnés, un autre rituel bouddhiste, afin de se prouver leur amour mutuel. Vous imaginez bien le succès auprès des ados. Il y a 2 ans, une campagne a été la risée des réseaux sociaux. Son slogan, c'était « Un dîner oui, le sexe non ». Le taux de grossesse adolescente ne diminue donc pas. Il faut dire que la société thaïlandaise, contrairement en fait à son image auprès de la communauté internationale, est tellement conservatrice sur certaines questions qu'il est encore impensable pour la plupart des adolescents d'aller acheter des préservatifs, sans même parler des adolescentes, hein, des filles. Et leur usage n'est donc pas du tout répandu. Depuis l'année dernière, les campagnes de prévention ont pris un tour un peu plus pragmatique, avec des slogans plus adaptés et des distributions de préservatifs.
Oui, effectivement, ça peut mieux marcher comme ça, sans doute. Bon, on vous souhaite quoi, Carole ? D'avoir une belle peluche dans quelques jours ?
Moi, j'y compte pas trop, je me tâte pour aller au temple, en fait.
Ah non ! Bon, bah, vous nous raconterez, remarquez, allez-y, avec votre Nagra, ça fera peut-être l'objet d'un futur reportage. Merci beaucoup pour ces explications et à très vite dans les carnets, Carole Izou, à Bangkok.
À bientôt, Sophie.
Et on referme Europe 1. Et dans quelques instants, on accueille Joseph, l'ami Joseph Chovanec et ses bonnes histoires de voyage. Très étonné aujourd'hui qu'on puisse vivre dans un pays sans en apprendre la langue ni côtoyer ses habitants.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h51, c'est le moment de faire un petit détour par l'autistan, Sophie Larmoyer.
L'autistan, c'est un peu partout finalement. C'est le monde vu par le regard de Joseph Chovanec, voyageur, philosophe et autiste Asperger. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Pendant votre dernier voyage, vous avez pas mal entendu un mot qui est familier à beaucoup d'expatriés, mais pas du tout aux simples citoyens que nous sommes dans notre pays. C'est le mot « compound ».
Oui Sophie, « compound », c'est un mot laid d'origine anglaise. On a du mal à le traduire. C'est un bloc de maison, souvent d'apparence bunker, entouré par l'armée, dont les entrées et sorties sont rigoureusement filtrées. Et c'est vrai que le mot « compound » rythme la vie quotidienne de beaucoup d'expats français à travers le monde, diplomates, hommes d'affaires ou leurs invités du moment, comme moi parfois en Arabie Saoudite.
Donc le « compound », c'est en fait c'est une bulle, un endroit clos.
Oui, c'est la bulle des non-autistes. Hein. C'est un univers où on peut passer littéralement une année entière sans sortir une seule fois. Hein. Ouais. Et plus la durée du séjour augmente, plus on a peur de sortir. J'ai posé franchement la question à une amie française qui vit depuis de longues années dans une sorte de compound en Arabie Saoudite. Et après un moment d'hésitation, elle m'a répondu qu'elle avait fait une incursion à l'extérieur au mois d'août dernier, c'est-à-dire 6 mois avant notre conversation, et qu'elle avait été émerveillée de voir le monde autour.
Enfin, ça veut dire que depuis août, elle vit officiellement en Arabie Saoudite, mais en fait, pas vraiment.
et parfois ce sont des dizaines d'années. Hein. Ouais. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs types de compound. Il y a les zones internationales, une espèce de ville dans la ville, à l'image du quartier des ambassades à Riyad. Alors certes, c'est un monde clos avec des checkpoints militaires successifs à franchir, mais l'impression d'oppression est largement tempérée parce qu'il y a une vie multiculturelle, colorée, des dizaines de nationalités présentes, des boutiques, des restaurants, mais aussi beaucoup moins de contraintes, par exemple vestimentaires pour les femmes.
Ouais, et c'est vrai que ça, c'est pas un détail là-bas pour les femmes au quotidien.
En effet, mais certains compounds sont beaucoup plus durs. Par expérience personnelle, je crois que les pires, ce sont les Américains. Il n'y a parfois même pas de magasin ou de diversité culturelle.
C'est très
dans
strict,
les...
quoi.
Voilà, ouais. Parce que tous les non-Américains sont plus ou moins considérés comme à risque sur le plan sécuritaire. Alors Sophie, je ne suis pas concernée directement à titre personnel par tout cela, vu que Dieu merci, je ne vis pas dans un tel lieu. Mais quand je le peux, j'aime observer comment ça fonctionne. Et c'est extrêmement instructif. En apparence, la vie y est bonne, hein, avec une qualité de vie sur un plan matériel considérablement supérieure à ce que l'on observe dans le pays d'origine des gens. Nourriture très haut de gamme, appartements luxueux, services de blanchisserie, et j'en oublie. Mais les gens, pourtant, pour beaucoup, hein, semblent souffrir le martyre sur le plan psychologique. Rares sont ceux qui parviennent à garder dans la durée une activité en dehors des impératifs professionnels ou des repas avec d'autres résidents, j'allais dire captifs, hein, du compound. Et un fait saisissant, rares sont ceux qui apprennent la langue du pays de résidence. Le compound est une sorte d'arme de dissuasion culturelle massive.
Ce qui doit vous sembler aberrant à vous qui passez votre temps à apprendre des langues étrangères.
Bon, on se demande qui est autiste. Hein. Je n'ai pas d'informations confidentielles sur le sujet, mais je suis presque convaincu que les fameux problèmes psychosomatiques des diplomates américains à Cuba ou ailleurs sont tout simplement le syndrome du compound qui est tellement sécurisé qu'il nous tue.
En tout cas, ce sont des microcosmes bizarres qui isolent.
Oui, mais pas si bizarre que ça, Sophie, hélas, parce qu'il semblerait que la planification urbaine des grandes métropoles s'oriente vers une fragmentation des villes en compound. L'idée est que chaque habitant s'inscrive dans un quartier spécialisé, avec plus ou moins tout ce qui est jugé nécessaire à sa vie dans le même quartier, et dont il n'aurait à sortir qu'exceptionnellement. Un haut diplomate français m'a expliqué que c'était l'avenir ou du moins le modèle retenu par beaucoup de pays du monde. Et après, on osera dire que les autistes vivent dans une bulle. Osons sortir de ces murs couverts de fils de fer barbelés avant qu'ils ne deviennent notre tombeau.
Et heureusement, il reste pas mal de villes cosmopolites où passer d'un quartier à l'autre et reste un bonheur. Merci Joseph de nous inviter dans votre bulle.
À très bientôt.
À dimanche prochain. C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Cette émission, tous ces reportages peuvent être réécoutés grâce au podcast. Vous le trouverez sur europe1.fr, c'est cadeau. Merci à Sophie Mallier, réalisatrice des carnets, à Florence Gimala qui m'aide à les préparer. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures à 13h, sans faute. Et d'ici là, portez-vous bien.
Oui, sans faute. C'était Sophie Larmoyer. À dimanche prochain, Sophie. Dans un instant, Ondelatte raconte jusqu'à 15h sur Europe 1. Christophe Ondelatte qui revient aujourd'hui sur le destin singulier d'un étudiant américain de 22 ans qui a inspiré le film de Sean Penn Into the Wild, sorti en 2007. Cet étudiant s'appelle Christopher McCandless. Il a tout sacrifié à son idéal de nature d'absolu, loin des contingences matérielles et consumériste, 2 années d'errance sur les routes du sud et de l'ouest américain avant de rencontrer son destin au cœur des forêts de l'Alaska. Un destin tragique, c'est vrai. Into the Wild, une histoire vraie. Ce sera juste après les infos, à 14h précise. Et puis à 15h, on a rendez-vous avec Isabelle Morizet. Elle recevra aujourd'hui le PDG de l'enseigne de grande distribution Leclerc, Michel Édouard Leclerc, pour une heure de conversation. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et ce, à l'occasion des 90 ans de Tintin. Très bel après-midi à tous sur Europe 1.
Europe 1, les carnets du monde.